Je tape ma petite recherche dans Google un lundi matin et en 32 centièmes de seconde, le moteur de recherche m'annonce fièrement avoir trouvé 32 500 000 résultats. Mais il y en a un qui trône tout en haut. En l'occurrence, une définition du repère.
Un algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, une suite de règles formelles.
Bon, j'espérais mieux, j'avoue. Sur 32 millions de pages, j'aurais aimé que Google me trouve un truc un peu plus parlant et éclairant. Et puis surtout, j'aimerais aussi comprendre comment ce moteur de recherche a screené tous ces contenus en aussi peu de temps, comment il les a classés et pourquoi il me propose celui-là en premier lieu. Alors, je décide d'aller frapper à la porte d'un spécialiste de ces questions, qui est aussi un excellent vulgarisateur.
Je m'appelle Antonin Descamps, je suis ingénieur et professeur en innovation médiatique à l'Université catholique de Louvain.
Si vous vous souvenez, Antonin Descamps, c'est déjà lui qui nous avait aidé à comprendre ChatGPT et à nous méfier de ses pièges. Cette fois, je commence par lui poser la même question qu'à Google. C'est quoi, au fond, un algorithme ?
Alors, un algorithme, on peut dire que c'est la mécanisation de la résolution d'un problème. Alors, c'est pas très simple comme formulation, mais en fait, ce n'est pas très compliqué à comprendre. C'est un algorithme, c'est le fait de diviser un problème en une série d'instructions qu'on va exécuter pour résoudre ce problème ou pour atteindre cet objectif. Et l'exemple, un exemple qu'on donne très régulièrement pour illustrer le concept d'algorithme, sans du tout encore convoquer des notions d'informatique ou d'ordinateur ou quoi que ce soit, c'est l'exemple d'une recette de cuisine. Eh bien, une recette de cuisine, c'est en fait un algorithme. On ouvre un livre de recettes et on nous dit, voilà, pour faire de la pâte à crêpes, versez 250 g de farine dans un bol, ajoutez 1 ml de lait, etc. Eh bien, en fait, chacune de ces instructions, on peut considérer que ce sont les instructions d'un algorithme qui vont nous permettre, non pas ici de résoudre un problème, mais d'atteindre notre objectif de réaliser de la pâte à crêpes. Et donc, un algorithme, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est simplement une série d'instructions qu'on va exécuter les unes après les autres, parfois avec ce qu'on appelle des branchements conditionnels, c'est-à-dire, si vous avez un petit sachet de sucre vanillé, ajoutez ce sucre vanillé dans votre pâte à crêpes, sinon passez à l'instruction suivante. Donc voilà, il y a une série d'instructions, des branchements conditionnels, parfois des répétitions en disant vous allez répéter cette instruction jusqu'à ce que cette condition soit remplie. Eh bien, ce type d'instruction, de branchement, de boucle, eh bien, c'est ce qu'on appelle des algorithmes.
Ça, c'est donc la base de la base. Mais évidemment, le développement des ordinateurs, avec des puissances de calcul de plus en plus grandes, a permis l'émergence d'algorithmes un peu plus complexes que la recette en 5 étapes d'une pâte à crêpes. On a d'abord vu émerger ce que l'on peut appeler des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes informatiques capables de reproduire tout seul les mécanismes cognitifs d'un expert. Parce que justement, un expert lui a programmé en détail une suite d'opérations à effectuer. Imaginons par exemple une banque qui construit un algorithme pour définir si tel client a droit à un crédit hypothécaire. C'est la machine qui fait le travail au départ de quelques cases à remplir.
On va prendre en compte le taux d'endettement de la personne, ses fonds propres, ses critères de risque, est-ce qu'il est fumeur, dans quel quartier il habite, etc. Et sur base de tous ces critères, on va exécuter une série d'instructions qui vont arriver à la décision de dire on vous octroie ce crédit ou on ne vous l'octroie pas, ou on vous l'octroie avec tel taux d'intérêt ou le montant de la prime d'assurance pour le risque qui est ici, eh bien, ce sera autant. Et voilà. Et donc, à ce niveau-là, c'est un algorithme assez classique qui va simplement prendre en entrée une série de critères, qui va y exécuter une série d'instructions et qui va aboutir à une décision.
Si on devait se le représenter, se le schématiser, on pourrait avoir une espèce de, d'arborescence où d'abord on a la demande du crédit, et puis le premier critère, je sais pas moi par exemple, c'est l'âge, et puis il y a des subdivisions de critères. Parfois on revient en arrière parce que tel critère a annulé, c'est un peu comme ça que ça va.
Complètement, c'est ce qu'on appelle un arbre décisionnel, c'est-à-dire qu'on va introduire des données liées à l'utilisateur ou dans ce cas-ci au client de la banque, et ces données vont être traitées par l'algorithme qui va exécuter une série d'instructions avec de nouveau des branchements conditionnels. Hein. Si l'utilisateur a plus que X fonds propres, alors exécuter cette instruction qui consiste à dire « Ok, il peut prétendre à tel type d'emprunt, par exemple. » Et donc, on se retrouve un petit peu dans notre analogie de la pâte à crêpes, sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de paramètres.
Mais voilà, aujourd'hui, quand on fait une recherche Google, par exemple, comme celle que je faisais au début, il y a encore beaucoup, beaucoup plus de paramètres qui vont entrer en ligne de compte que pour l'octroi d'un emprunt hypothécaire. Notamment, dans la volonté de la plateforme de personnaliser l'information qu'elle va me donner, de m'exposer à des messages publicitaires, de m'inciter aussi à rester sur ses pages. Tout ça nécessite le développement d'algorithmes qui vont encore bien plus loin que les systèmes experts et qui ne cessent de se développer aujourd'hui.
Il y a une série d'algorithmes qu'on va appeler des algorithmes apprenants. Là, on entre dans le champ de l'apprentissage automatique, du machine learning. On touche donc ici plutôt à l'intelligence artificielle, hein, où une série ou un grand nombre même de ces paramètres vont non plus être fixés par les concepteurs de l'algorithme, mais vont être réglés par les données d'entraînement de ces algorithmes. Donc il y a véritablement au sein de la famille des algorithmes, une sous-famille qui sont les algorithmes apprenants qui vont être, bien sûr, toujours conçus par des êtres humains, mais qui vont adapter une série des paramètres qu'il faut régler dans leur fonctionnement sur base des données d'entraînement qu'on va leur fournir, c'est-à-dire des données où on leur dit voici des données d'entrée, voici les sorties qu'on en attend. Sur base de ces données d'entrée et des sorties attendues, on demande à la machine de régler elle-même les paramètres. Et à ce niveau-là, au niveau des algorithmes apprenants, une image que j'utilise souvent, c'est l'image de ces très grandes tables de mixage qu'on observe parfois dans les studios, vous voyez, avec des centaines et des centaines de boutons à tourner, hein, qui sont toujours très impressionnants. Eh bien, on peut imaginer un algorithme apprenant comme une de ces tables avec ces centaines de boutons, sauf que ces centaines de boutons ne vont pas être positionnés par des êtres humains, mais elles vont être réglées elles-mêmes par la machine en fonction des données qu'on va leur fournir. Et ça, ce sont une catégorie d'algorithmes, on pourrait dire, qui va régler elle-même une partie de ces paramètres. Et ce qu'on observe, et ça on touche ici de nouveau à l'intelligence artificielle, c'est qu'avec suffisamment de données d'entraînement et avec suffisamment de paramètres, mais je vous parle ici d'énormément de données d'entraînement et d'énormément de paramètres, eh bien on obtient des résultats assez bluffants. Mais une chose qui est importante à préciser, c'est que ce soit des algorithmes classiques avec des paramètres qui sont un à un réglés par des humains, ou que ce soit des algorithmes apprenants avec des grandes tables de mixage sur lesquelles la machine elle-même va régler ces centaines de milliers de paramètres, les objectifs de l'algorithme, c'est-à-dire l'intention, la tâche qui doit être réalisée par l'algorithme, elle est toujours bien fixée par des humains, pas par la machine évidemment.
On touche là à une clé de compréhension très importante. Et pour qu'on l'appréhende bien, je repars de notre pâte à crêpes.
Oui, enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. On commence par de la vanille.
Tout son arôme. Ah, oui.
Du sel. L'algorithme de base, c'est donc notre bonne vieille recette de pâte à crêpes héritée de notre grand-mère, qui consiste en une série d'opérations successives à effectuer. Dans le cas d'un algorithme apprenant, développé avec de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si on confiait à un ordinateur doté d'un réseau de neurones artificiels le soin de définir son propre chemin, sa propre recette de pâte à crêpes. On lui fournit une série d'ingrédients de départ et on lui fournit aussi quelques exemples de crêpes que l'on veut obtenir au final. Et puis, c'est l'algorithme tout seul qui va procéder par essais et erreurs et développer de manière inductive une arborescence bien spécifique d'opérations successives pour parvenir au résultat attendu. Mais, dans les deux cas, l'algorithme a bien une fonction objectif, un but fixé par le concepteur de l'algorithme. Et si ce but, c'est par exemple d'avoir des crêpes avec beaucoup de beurre pour en vendre le plus possible, eh bien l'algorithme, même en s'auto-réglant sur des millions de données d'entraînement, se profilera dans cet objectif bien précis qui lui a été assigné au départ. Bon, évidemment, quand on parle des algorithmes sous-jacents aux réseaux sociaux, on est face à de tout autres enjeux que du beurre et des crêpes. L'idée d'une plateforme de réseaux sociaux, c'est en général de maximiser le temps que vous allez passer sur ces contenus, de pouvoir récolter vos données, de pouvoir vous soumettre aussi à de la publicité ciblée. Donc, c'est bien cela qui est assigné comme fonction objectif à l'algorithme. C'est ce qui va définir comment les algorithmes apprenants vont se construire et se régler pour tendre vers cet objectif. Et pour ce faire, ces algorithmes d'un genre nouveau ont des atouts gigantesques puisqu'ils vont pouvoir évoluer sans cesse et personnaliser de manière de plus en plus fine la recommandation des contenus qui vous parviennent. En cela, on peut considérer que l'irruption de l'intelligence artificielle dans les algorithmes a constitué une révolution.
Avant, on faisait des statistiques en essayant de déterminer qu'est-ce que tel segment de la population en moyenne allait préférer, hein, dans le domaine marketing par exemple, ou que sais-je. Ici, grâce au fait que l'on peut prendre des décisions qui se basent sur un ensemble de données, et en particulier sur l'ensemble des données que vous, Arnaud Reussen, vous avez laissées derrière vous dans votre environnement numérique, ça permet une personnalisation, une individualisation des décisions qui est tout à fait inégalée et qui permet justement de véritablement façonner votre environnement informationnel eh bien, à votre goût, ou en tout cas à ce que considèrent les grandes plateformes être votre goût. Et donc vous amener, sans doute plus subtilement aussi, à, par exemple, consulter tel contenu, ou à vous engager davantage sur la plateforme, à réagir à tel contenu, ou à procéder à un achat sur une plateforme type Amazon. Grâce à cette personnalisation extrême, sur la base des traces numériques, disons, que vous avez laissées dans votre environnement numérique.
Mais la médaille de ces potentialités incroyables a aussi de fameux revers. Retournons à notre ordinateur et allons taper une recherche sur X, le nouveau nom de Twitter, plateforme dont Elon Musk est le propriétaire. Je tape dans l'onglet de recherche de la plateforme, les mots Israël et Gaza. Et là, la plateforme me propose toute une série de tweets de personnalités aux opinions très tranchées tenant des propos plutôt clivants sur ce conflit au Proche-Orient. Dans les 15 premiers tweets qui apparaissent sur le fil que me propose la plateforme, aucun article d'analyse de grands médias qui pourrait pourtant apporter une lecture journalistique et nuancée de la situation sur place. Ce qui me donne l'impression que la plateforme accentue une lecture assez polémique et même passionnelle du conflit qui n'est pas vraiment ce que je recherchais. Alors comment expliquer cette situation ? Réponse, là encore, d'Antonin Descamps.
La plateforme va, sans nécessairement avoir de volonté malveillante, elle va simplement chercher à maximiser ses utilisateurs et à maximiser ses revenus, elle va façonner l'environnement informationnel sans nécessairement d'abord penser justement au fait de vous proposer des informations qui vont vous permettre de vous faire un avis sur ce sujet sensible que vous citez, par exemple, qui soit nuancé, qui va prendre suffisamment en compte bien les arguments des deux parties, etc. Tout simplement parce qu'elle va chercher à maximiser d'autres types de critères. Et donc, ce ne sont pas nécessairement ceux qui vont permettre de favoriser la cohésion sociale. Ça, c'est certain.
Premier revers à la médaille, donc. Un algorithme construit pour servir à un objectif en particulier peut emprunter pour y arriver des chemins qui vont avoir de solides effets collatéraux. Dans le cas des réseaux sociaux, il n'est plus à démontrer que la recherche de la maximisation de notre implication émotionnelle a des effets sur la qualité du débat public, ce qui a des effets délétères aussi sur nos démocraties. Nous avions d'ailleurs consacré tout un épisode à cette question il y a quelques mois. Deuxième problème qui se pose également, les biais des algorithmes. On pourrait avoir l'idée que, comme ce sont des ordinateurs et non des humains qui font le travail, ils sont infaillibles, sans préjugés et parfaitement objectifs. Mais ce n'est pas cela que l'on constate dans les faits. D'abord, parce que l'objectif de l'algorithme est toujours bien fixé par un humain, avec ses intentions et avec ses biais, et puis parce que l'algorithme est forcément tributaire des données qu'on lui a soumises pour qu'il puisse s'entraîner. Un exemple est particulièrement frappant à ce sujet. Il remonte déjà à 2014, quand la société Amazon avait développé un algorithme censé choisir tout seul, parmi les CV reçus par l'entreprise, les profils qu'il fallait embaucher. Problème, l'algorithme discriminait les femmes. Pour une raison bien simple, il avait été entraîné sur base des CV des personnes engagées durant les 10 années précédentes. Des personnes qui étaient majoritairement des hommes. L'algorithme apprenant en était du coup venu à considérer que les hommes convenaient mieux que les femmes pour les fonctions demandées. Enfin, on peut encore pointer un troisième problème qui aggrave le phénomène des biais que l'on vient d'évoquer. L'aspect boîte noire de l'algorithme basé sur de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'il est parfois impossible, ou en tout cas très difficile de savoir, pourquoi et comment un algorithme en est venu à produire tel ou tel résultat.
Absolument, ça pose évidemment des questions sur le plan éthique, sur le plan de la gouvernance et de la gouvernabilité de ces algorithmes. Vous avez mentionné la notion de boîte noire, et c'est souvent ce dont on parle justement pour ces algorithmes apprenants. On parle le plus souvent de ces réseaux de neurones artificiels qui sont une catégorie d'algorithmes apprenants qui sont extrêmement performants si on leur donne suffisamment de données et qu'ils ont suffisamment de paramètres, mais dont effectivement on peine le plus souvent à établir les données, le chemin qui a été suivi par la machine pour produire telle ou telle décision. Or, dans énormément de cas, dans des domaines assez sensibles comme le médical, le militaire, le judiciaire ou que sais-je, l'enjeu, ce n'est pas tant d'avoir une décision produite par la machine que de pouvoir expliquer cette décision. Parce que c'est précisément en pouvant expliquer la décision, en pouvant donner du contexte à cette décision, en disant on s'est basé là-dessus et là-dessus et là-dessus, en prenant en compte justement le contexte aussi de production des données qui ont été utilisées, eh bien qu'on arrive à justifier cette décision et qu'on arrive à faire en sorte que cette décision puisse être acceptée au sein de la société. Et c'est précisément ça qui permet de faire société, c'est de s'expliquer les décisions qui sont prises. Et ça, quand on utilise des algorithmes apprenants, donc en mode boîte noire, où on ne sait pas exactement donner l'explication d'une décision, eh bien cela fait défaut et il faut absolument investir dans la recherche sur l'explicabilité des décisions de ces algorithmes apprenants.
Essayons de résumer un peu et de tracer un portrait nuancé des algorithmes qui s'invitent de plus en plus souvent dans nos vies et dans nos usages. Grâce à l'intelligence des développeurs, grâce aux puissances de calcul toujours plus grandes, grâce aussi aux quantités énormes de données que nous laissons désormais un peu partout dans l'univers numérique, nous avons des algorithmes de plus en plus développés, capable de nous aider à trier des quantités considérables d'informations. Des algorithmes apprenants, capables aussi de personnaliser des contenus de manière de plus en plus fine, de repérer des corrélations dans des immenses bases de données, des corrélations que l'esprit humain n'aurait pas pu, lui, remarquer. Mais il convient d'avoir 3 fameux écueils en tête. Premièrement, ces algorithmes sont et restent des outils hyper perfectionnés, certes, capables d'apprendre par eux-mêmes, mais des outils quand même, puisqu'ils ont été profilés, programmés en fonction d'objectifs bien précis de ceux qui les ont commandités. Deuxièmement, ces algorithmes ont des biais. Les biais déjà de ceux qui en dessinent les objectifs, mais les biais également dans les milliers, voire les millions de données qui servent à les entraîner. Et puis, troisièmement, l'aspect boîte noire. La machine est souvent incapable d'expliquer le chemin qu'elle a pris pour aboutir à un résultat. Un défaut d'explicabilité, une opacité souvent renforcée par le fait que les grandes plateformes numériques qui développent ces algorithmes gardent en plus le secret sur les objectifs réellement fixés à leurs algorithmes et sur la façon dont elles ont choisi de les entraîner.